Et bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Vous écoutez bien, c'est vous qui le dites, la quotidienne de Radio U sur le 101.1. Le saviez-vous, aujourd'hui, donc le 25 avril, c'est la journée des jeunes filles dans les secteurs des TIC, c'est-à-dire les métiers universitaires de télécommunication et de l'informatique. Cela tombe bien parce qu'on va pouvoir discuter avec Mélissa de Estime Numérique. Alors déjà, Mélissa, bonjour.
Bonjour.
Alors bonjour, oui, de très loin, tu es à Rennes justement, et donc je vais commencer directement par une citation qu'on peut retrouver sur votre site internet. Estime Numérique est une association qui œuvre pour la mixité dans le numérique et la montée en compétences des femmes dans les métiers impactés par le numérique. Est-ce que tu pourrais nous en dire plus ?
Alors oui, donc nous, Estime Numérique, on est une association qui agit en faveur de la féminisation des métiers du numérique. Et quand on parle des métiers du numérique, on parle bien des métiers dits techniques du numérique, puisqu'aujourd'hui, on a une vraie problématique, c'est la représentation des femmes dans les métiers du numérique, mais elles sont encore aujourd'hui majoritairement dans les métiers support, donc l'administration, le marketing et la RH, et on manque cruellement de femmes dans les fonctions techniques, donc dans les métiers qui touchent plutôt au développement, à l'infrastructure, à la cybersécurité, à l'intelligence artificielle. Donc c'est vraiment notre but, c'est d'amener plus de femmes à construire les outils numériques de demain.
Quand tu dis des métiers numériques techniques, c'est dans le sens du développement du code, pas de
Exactement,
juste utiliser des outils numériques.
Non. Alors si on est, on peut en tout cas nous on le voit aujourd'hui, on essaie de sensibiliser de plus en plus parce qu'aujourd'hui le numérique, on a énormément de clichés derrière le numérique. Il faut être bon en maths, il faut être fort. En tout cas l'informatique, ou quand on parle de numérique ou informatique, on parle tout de suite d'ordinateur. Et l'objectif pour nous c'est aussi d'expliquer que on va tous à un moment devoir avoir des compétences numériques dans tous les secteurs d'activité, en tout cas dans tous les métiers. Et donc, c'est aussi faire en sorte que les femmes n'abandonnent pas le numérique, ne le voient pas comme un grand méchant loup. Et au contraire, de se dire qu'aujourd'hui, c'est quand même le numérique est transverse, il est partout. Et on a besoin que toutes les femmes, mais tous les hommes aussi, mais en tout cas que toutes les femmes puissent à un moment donné gagner en compétences sur les outils numériques pour pouvoir assurer leur maintien dans l'emploi.
Quelles sont les origines de Estime Numérique? Depuis quand ça existe?
Alors à la base, Estime Numérique a été l'association a été fondée en 2017, et avant la création de l'association, un événement a été lancé en 2016 qui s'appelait Numérifemme à l'époque, et l'idée c'était de dans une même journée permettre aux femmes de découvrir les métiers du numérique, mais aussi comment les secteurs d'activité sont impactés par le numérique. Donc l'idée, c'était vraiment d'agir sur l'attractivité des métiers du numérique auprès des femmes. Donc l'association est née à la base à la suite d'un événement. Et aujourd'hui, cet événement voilà, a évolué depuis 2017, mais l'association est née de ce constat-là. On manque de femmes dans le numérique. Le numérique est partout. Et forcément, il a eu un impact énorme avec le Covid, mais en tout cas, le numérique est partout. Et comment on fait pour que les femmes puissent, à un moment donné, s'emparer du sujet et en tout cas ouvrir des voies ou susciter des vocations auprès des femmes.
Et quel est l'état de la présence des femmes dans les métiers du numérique aujourd'hui du coup ?
Alors aujourd'hui, il y a plusieurs chiffres qui sont donnés. Donc on estime à peu près entre 28 et 30% de femmes dans le secteur du numérique, sauf que quand on creuse un petit peu, c'est ce que j'ai dit en introduction, elles sont majoritairement dans les fonctions dites support, l'administration, le marketing, les RH. Donc même si elles sont dans le secteur du numérique, elles restent finalement sur les fonctions support. Et finalement, elles sont que 16%, entre 15 et 16% dans les fonctions dites techniques ou dans les métiers dits techniques, donc l'infrastructure, le développement informatique, le code, la cybersécurité, l'intelligence artificielle. Un autre élément qui est important à connaître, c'est qu'aujourd'hui, dans les derniers chiffres qui sont sortis, 50% des femmes en emploi dans le numérique quittent leur emploi avant 35 ans. Donc aujourd'hui, on a vraiment des problématiques sur l'attractivité des métiers, mais aussi sur la rétention et la fidélisation des talents féminins dans le secteur du numérique.
Et depuis que Estime Numérique existe, est-ce que vous avez vu une évolution dans le sens, pas forcément que vous ayez eu un impact, mais depuis que vous travaillez dans ce domaine-là, et peut-être toi, est-ce que toi, tu as perçu un changement, une évolution de la présence des femmes dans ces métiers ?
Pas beaucoup. En fait, on en parle beaucoup, de plus en plus, mais on se rend pas compte qu'aujourd'hui, les stéréotypes de genre et la question de l'orientation, elle commence très tôt et qu'il y a énormément, énormément de freins à l'orientation et qu'il faut, en tout cas, c'est vraiment, il y a énormément d'éléments à faire et il ne suffit pas de décréter la mixité pour y arriver. Donc oui. C'est vraiment, nous, l'objectif, c'est d'expliquer aujourd'hui où on en est. On a l'impression qu'on en parle beaucoup, que les jeunes sont beaucoup plus au fait du numérique parce que c'est inscrit dans la société, parce que c'est inscrit dans leurs habitudes. Et finalement, on se rend compte que dans les faits, on a du mal encore aujourd'hui à donner envie ou en tout cas à attirer des jeunes filles et des femmes dans le secteur du numérique. Donc, l'impact, on le voit auprès des personnes qu'on accompagne, mais finalement, il reste minime au regard des chiffres nationaux qui sortent aujourd'hui. On est encore loin d'une vraie avancée ces dernières années.
Et comment fait-on pour changer les choses ?
Comment fait-on ? Eh bien, déjà, pour nous, c'est ce qu'on dit, il faut déjà avoir conscience de où on en est aujourd'hui et arrêter de penser que les choses évoluent dans le bon sens, parce que non, aujourd'hui, on est plutôt dans une société, en tout cas, dans une situation où ça recule. On a de moins en moins de filles qui sortent diplômées d'école d'informatique ou d'école d'ingénierie. Donc, c'est déjà, pour nous, c'est la première chose, c'est d'avoir conscience de où on en est aujourd'hui, que la situation est loin d'avoir changé depuis quelques années, même si on en parle beaucoup et qu'on en a conscience, ou quand on essaie d'en avoir conscience. Ça, c'est le premier point. Et puis après, l'objectif, c'est vraiment d'essayer de travailler sur les stéréotypes de genre, parce que c'est le premier frein qui fait qu'on va entraver ou freiner l'orientation des femmes ou des jeunes filles. Et finalement, c'est comment on arrive dès le départ, dès le collège, dès le primaire même, à essayer de faire comprendre que les stéréotypes du genre sont marqués et qu'on ne va pas orienter les filles et les garçons de la même manière. Donc c'est un peu les deux, pour nous, les deux volets. C'est un, comment on arrive à remettre l'église au centre du village, hein, donc de dire aujourd'hui où on en est. Et puis le deuxième point, essayer de travailler sur cette question de stéréotypes du genre qui finalement vont à un moment entraver l'orientation.
Et plus concrètement, qu'est-ce que Estime Numérique fait pour sensibiliser sur ces sujets, pour intervenir ? Quelles activités ?
Alors nous, on a un gros sujet sur l'événementiel. On pense que en passant par des événements, ça permet d'allumer des mèches ou de semer des graines. On reste convaincu que de faire des réunions d'information collective pour présenter des métiers du numérique, ça n'aide pas à grand-chose. L'idée pour nous, c'est vraiment d'essayer de passer par de l'événement pour faire, apprendre à faire, déconstruire les stéréotypes, essayer de comprendre que derrière l'initiation au code, par exemple, effectivement, ça peut paraître hyper obscur, hyper compliqué à faire, mais il suffit juste d'être accompagné, d'avoir la bonne formation pour pouvoir y arriver. Donc pour nous, on passe beaucoup, beaucoup par l'événementiel, à créer des événements sur une journée, une demi-journée, pour mettre les mains dans le code, ou en tout cas essayer de comprendre qu'est-ce qu'on met derrière les métiers du numérique et beaucoup par la pratique. Ça, c'est des actions qu'on organise très régulièrement sur ces temps de formation courtes qui vont toucher surtout un public très large, entre des femmes qui sont éloignées de l'emploi, des femmes en reconversion, de 18 ans à 50 ans. On n'a pas d'âge requis pour pouvoir, ni de niveau requis pour intégrer nos événements. Ça, c'est des premières missions que l'on organise. Et puis, pour toucher les femmes, et en tout cas, ça, c'est vraiment sur la partie attractivité des métiers. Pour la partie plutôt sécurisation des parcours, comment on fait pour garder les femmes en poste dans les métiers du numérique, on va plutôt travailler sur les freins, ou en tout cas les raisons qui font que les femmes quittent l'IT avant 35 ans. Généralement, les raisons qui sont évoquées, c'est le sexisme ordinaire, c'est les freins à l'avancement de la carrière, c'est l'absence de rôle modèle ou l'isolement. Et donc du coup, pour répondre à ces problématiques qui sont rencontrées, on organise régulièrement des formations à la négociation salariale réservées aux femmes. On va organiser aussi des temps de rencontres en format soirée ou fin de journée pour pouvoir faire, en tout cas, rencontrer des femmes qui sont dans le numérique pour vraiment lutter contre l'isolement. Et puis, on a lancé l'année dernière un nouvel événement qui s'appelle Who Runs the Tech. L'idée, c'est de rendre visible l'expertise technique des femmes. Donc, c'est une journée technique, 100% technique, avec une programmation 100% féminine, pour vraiment renforcer la légitimité et valoriser des femmes qui sont aujourd'hui et qui font carrière dans l'IT. Et puis, de manière un peu plus transverse, on vient aussi sur la dernière partie pour faire que les femmes trouvent en tout cas leur place dans le numérique. On va sensibiliser les écoles, donc les établissements de formation et les entreprises, à créer un climat bienveillant et à finalement à faire qu'il y ait une vraie démarche d'inclusion dans les entreprises et comprendre que Il suffit pas de décréter la mixité. Aujourd'hui, il y a des choses à mettre en place dans les pratiques managériales, dans le recrutement, pour attirer plus de femmes.
Et on va peut-être parler info pratique pour le coup. Comment est-ce qu'on peut se mettre au courant de vos actions, de participer aux différents événements que tu viens de nous citer justement
Alors aujourd'hui, je ne désespère pas, notre site est en cours de refonte depuis 2 ans et demi. Donc je ne désespère pas à ce qu'il soit mis à jour et qu'il soit lancé, en tout cas la nouvelle version, dans les prochaines semaines. On travaille dur pour ça. Donc pour l'instant, le site internet n'est pas à l'image de ce que l'on fait. Donc c'est pas forcément si simple. Mais on espère que dans les prochaines semaines, vous pourrez aller sur notre site internet pour voir nos prochains événements. Mais sinon, notre page LinkedIn est assez active et on publie très régulièrement sur nos prochains événements ce que l'on fait sur le territoire breton.
Parfait. Et Mélissa, pour terminer, est-ce que tu aurais peut-être des recommandations pour approfondir le sujet ?
Ne pas, alors, quand moi je m'adressais aux femmes et aux jeunes filles, c'est surtout d'y aller en fait, essayer d'aller trouver des moyens de se former, d'aller sur la pratique, parce que généralement on voit vraiment le numérique ou l'informatique comme quelque chose de hyper complexe, où il faut être bon en maths, bon en logique et autres. Et l'objectif c'est plutôt essayer de trouver des ateliers, des endroits où on peut tester, toucher un peu du doigt les différents métiers et se rendre compte que finalement, c'est pas si compliqué que ça, et entre guillemets, mais en tout cas, ça demande un peu de temps de formation et juste sortir un petit peu de sa zone de confort.
Parfait. Et merci beaucoup, Mélissa. On atteint déjà la fin de cette interview. Merci beaucoup d'être venu jusqu'ici, enfin, plutôt d'avoir répondu à notre appel.
Merci à vous de l'invitation.
Et puis nous, chers auditeurs et auditrices, on va continuer en musique avec Murder de Mob & Joe.
T'écris ta bio pendant que j'écris ma légende, yeah. L'odeur du succès c'est alléchant, fuck it dans les champs. Que des barrières que j'enjambe, que des morceaux que j'enchante. Si on bouge la tête et on fait semblant, peu parfait, je voulais faire ce que je fais. Travailler à l'école, plateau les belles, ça plateau les bijoux, platier or dans les soirées, je suis pas très sobre. Ma vie n'est pas très love, tu veux pas les faire, ça demande au monsieur qu'à des cordes. Let's go, alligator, je sors un alligator, t'as passé la tête, mani mano. Arrête de cracher à tort, Rick, je l'ai lâché pour des vues, elle m'a léché pour des thunes avec les deux genoux au sol. Ici ce n'est que toutes ces putes, fiu, fiu, c'est le bruit de ma lame contre des boules. J'ai jamais voulu la fame, je la fous. Mais mes journées, je prends du bon temps et je fais des hits, je pèse ta daronne sur des sites. On me félicite, 38 euros par jour. Faut que l'argent se prolifère. J'fais du cash en dormant, j'remplis ma coupe de somnifère. Hein. Ok, tu joues à cache-cache. J'reste élégant, j'ai mes potes en cuir élégant. Tache de sang sur mes vêtements, j'suis dans mon élément. Mode de loin d'un événement sur ta carcasse. Tout est mon disloqué, hein. Plateau tu mis sans cœur, hein. Tout est mon disloqué, hein. Ok, ok, ok. Faire du sale, c'est ok. Toutes les salles sont bloquées, j't'ai dit. L'objectif c'est de choquer, katana dans je caisse. Que des diables dans la foule, y'a rien d'étrangier. Change sur tes hanches, bébé, change sur tes hanches. Y'a rien d'intéressant jusqu'à ce que le diable me sourisse. Donc tous les jours, fuck les enchiers. Fuck les enchiers, fuck les enchiers. Le diable me sourit, donc tous les jours, fuck les enchiers. Fuck les enchiers. Fuck les anges, 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 fuck les anges. J'ai les dents, fous Grégory dans les penchers. J'fais des conneries sans l'écran, maman j'suis mis sur l'écran, bébé. J'aime quand tu danses, quand j'ai mon jus sur tes hanches. Souris dans tous les gens, fuck les anges, fuck les anges, fuck les anges. Le diable me sourit dans tous les gens, fuck les anges. faut que fou Grégory dans les temps. Tous les jours fuck les anges. Y'a un mec qui dérange. Dans l'isoloir je montre les dents, chérie. Sourire dans chiant.
La volonté absolue ne consent pas au mal, mais la volonté y consent dans la mesure où elle craint, par refus, de tomber dans un plus grand malheur.
C'était Murder de Mob & Joe que vous venez d'entendre sur les ondes de Radio U sur le 101.1. Je ne vous l'avais pas dit en début d'émission, mais nous allons écouter une interview faite par Radio Campus Poitiers. C'est un petit peu de littérature, ça va parler d'avoir 20 ans à Sainte-Soline, ça parle des méga-bassines. Allez, je vous laisse écouter.
Bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Bonjour.
Alors, pour une rapide présentation, Benoît Leroux, vous êtes enseignant chercheur en sociologie du monde agricole. Et Mathias Lenzi, vous êtes enseignant plutôt sur la question des médias. Vous travaillez tous les deux à l'Université de Poitiers. Et on vous accueille aujourd'hui puisque vous avez sorti un ouvrage qui s'appelle « Avoir 20 ans à Sainte-Soline » avec le collectif du Loriot. Pourquoi est-ce que le choix a été fait de sortir cet ouvrage aujourd'hui ?
Alors, pourquoi aujourd'hui ? On avait effectivement assez tôt l'ambition de sortir cet ouvrage pour les un an hein, de cette manifestation historique et d'ailleurs de ces deux jours de manifestation et d'événements autour de la lutte contre les méga-bassines. Peut-être que je vais quand même revenir sur la genèse de l'ouvrage, sur pourquoi on a eu envie de faire un ouvrage et pourquoi en fait au début on n'avait pas tellement envie d'en faire un ouvrage, paradoxalement. Ce qu'il faut savoir, c'est que donc on est un collectif de 6 enseignants chercheurs hein, à Poitiers et on a été particulièrement investi hein, puisqu'on est allé à Sainte-Soline nous-mêmes. Et en rentrant de Sainte-Soline, que ce soit le samedi ou le dimanche, on a rapidement voulu partager ce qu'on avait vécu avec les étudiants. Parce que particulièrement, plusieurs étudiants étaient investis hein, dans cette lutte, aussi dans la lutte contre la réforme des retraites, hein, puisque ça s'imbriquait. Et le lundi, on organise un débriefing avec des étudiants. Il y a une vingtaine d'étudiants qui nous rejoignent. Là, on n'a absolument pas l'ambition de faire un ouvrage. Hein. C'était vraiment de partager collectivement. Et on est marqué par les témoignages que ces jeunes étudiants nous livrent, et en particulier sur la deuxième souffrance qu'ils ont vécue au-delà de la manifestation, la souffrance qu'ils ont vécue due au traitement médiatique de cet événement-là. Tant par les images qu'ils ont pu voir, tant par les discours qui ont été tenus sur notamment les chaînes d'information en continu, mais aussi sur la manière dont leurs amis, leurs familles ont perçu la manifestation à travers les médias, ce qui a empêché la possibilité des fois d'en parler avec leurs proches et donc de penser les plaies hein, qui pouvaient exister physiques ou aussi morales. Psychique et donc assez rapidement on a voulu hein, ben construire un contre-récit, du moins rétablir certains faits, les documenter et donc assez rapidement on a eu l'ambition de faire un ouvrage qui récolte les témoignages de jeunes qui étaient présents mais aussi hein, y a aussi des textes d'intervention hein, qui vont éclairer ce qui s'est passé ce jour-là et en quoi ce jour et ces deux jours, d'ailleurs, je le disais au début de l'entretien, sont peut-être historiques hein, dans la lutte écologiste et sociale.
Et on se souvient effectivement qu'il y a eu tout un moment où les médias ont documenté ça largement après, même d'autres médias un peu plus alternatifs que les médias mainstream qui ont effectivement criminalisé énormément et plutôt porté la parole que portait le gouvernement, etc. Il y a eu carrément des moments où la police a refusé l'accès de certains centres de soins médicaux, d'ambulances qui venaient chercher des personnes, etc. Il y a eu des milliers de grenades de désencerclement qui ont été lancées. Il est toujours bon de rappeler que ces grenades de désencerclement sont des armes de guerre. Quand on en voit le titre du livre, Avoir 20 ans à Sainte-Soline, c'est quand même compliqué de ne pas avoir une référence ici à la phrase d'Emmanuel Macron en 2021. C'est dur d'avoir 20 ans en 2020. Ce titre-là, comment est-ce que vous l'avez apporté ?
Avoir 20 ans à Sainte-Soline, on ne pensait pas à Emmanuel Macron, sincèrement, parce qu'on pense à René Vautier, qui est un cinéaste, qui a fait un film sur les appelés d'Algérie, justement dans les années de guerre d'Algérie. Hein. Le film est postérieur à la guerre, hein, juste à la sortie de la guerre. Toujours est-il, ce titre il fait référence plutôt à cette situation très compliquée dans laquelle se retrouvent des appelés contingents français dans un conflit terrible où ils sont amenés à faire le sale boulot sur place. Alors, toute proportion gardée, on n'est pas dans les mêmes du tout dans les mêmes situations. Par contre, ce qui se passe, c'est qu'on a affaire à des jeunes qui aussi, dans le film, hein, se révoltent par rapport à une institution, par rapport à un ordre établi, hein, qui s'impose à eux. Notamment, dans le film, il y a un jeune qui se politise, hein, sur place et qui commence à prendre ses distances par rapport à ce qu'on lui impose. Et en fait, nous, ce qui nous a intéressé à travers ce... On a fait un choix, hein, de se centrer sur les jeunes parce qu'en fait, on s'aperçoit que dans ces mouvements, c'est très, 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 très hétérogène. Hein. C'est multigénérationnel, mais je pense que la force de ce mouvement écologique qui se constitue depuis plusieurs années, c'est la présence de ces jeunes qui viennent ici avec leur bagage, qui viennent ici avec leur force, qui viennent ici aussi se socialiser politiquement, se socialiser à la lutte, hein, écologique, avec toute la variété de ces modalités, hein. C'est-à-dire, c'est pas seulement la confrontation violente, hein. Comme le disait Mathias, hein, c'est comme vous le disiez aussi, ça cache en fait toutes les manières dont cette jeunesse manifeste son mécontentement par rapport aux politiques publiques concernant l'environnement, l'aménagement du territoire et plus largement l'avenir qu'on a en commun, pour reprendre une expression d'un autre candidat à la présidentielle.
La jeunesse semble particulièrement engagée dans la lutte aujourd'hui de manière générale. Comment est-ce que vous la percevez, vous, au cours de ces témoignages, cette jeunesse, cet engagement ? Parce qu'on rappelle que Sainte-Soline, à la base, cette problématique-là, c'est l'accaparement par quelques propriétaires terriens de l'eau, en fait, qui est une denrée et qui devient de plus en plus rare aujourd'hui. Comment est-ce que vous la percevez, cette politisation des jeunes, enfin des jeunes personnes, en tout cas des personnes que vous avez interrogées dans votre livre ?
Elle est multiple, hein. Peut-être quelques éléments de réponse. D'abord, déjà... En fait, pour avoir fait une trentaine d'entretiens avec ces jeunesses, en fait, ces jeunes, on s'aperçoit qu'ils ont des origines et des parcours sociaux assez variés. Et ce faisant, tout le monde n'a pas les mêmes dispositions à comprendre les enjeux écologiques, les enjeux environnementaux aujourd'hui. On a, parmi ces enquêtés, des gens qui ont fait des études supérieures, qui ont une conscience politique assez fine, hein, des enjeux et des politiques qui sont mises en place. D'autres sont beaucoup moins dotés scolairement ou n'ont pas cette ouverture sur la connaissance aussi des politiques publiques et des enjeux environnementaux. Et ils se forment sur le terrain, si j'ose dire, hein, dans les confrontations, dans les réunions de préparation. Donc, nous, ce qu'on remarque, c'est que l'importance de ces mouvements, hein, c'est des lieux en fait de socialisation politique à la prise de conscience aussi des enjeux aujourd'hui. Hein. On pourrait croire que certains y vont pour se confronter aux forces de l'ordre, d'autres. Mais en fait, on s'aperçoit concrètement qu'ils ont globalement une bonne conscience des enjeux écologiques et sociaux qui sont derrière cette lutte des méga-bassines. Et ce faisant, ils enrichissent aussi toute leur palette, hein, de connaissances sur les autres enjeux. Parce que vous le savez bien, il y a des luttes en ce moment tenues contre la 69, d'autres projets qui sont l'objet de critiques sur d'autres territoires.
Et en face, malheureusement, la seule réponse qui semble arriver, notamment de l'État, c'est la répression et la criminalisation de la lutte. On en parlait tout à l'heure, la question des éco-terroristes, etc. Comment est-ce que vous sentez ces jeunes, en l'occurrence, face à la répression policière et à cette violence ?
Ben, on y a été directement confronté dans la construction même de l'ouvrage. En tant que sociologue, quand on fait des entretiens, on garantit à nous enquêter l'anonymat. ce qui favorise bien souvent le fait qu'il se livre hein, et qu'il participe au travail d'enquête. Donc là, on a évidemment proposé l'anonymat, mais en plus, on avait beaucoup d'enquêtés qui étaient particulièrement inquiets des répressions possibles ultérieures à la sortie du livre, etc., des représailles judiciaires, du simple fait d'avoir participé à une manifestation. Hein, il faut le rappeler, c'est ça qui y a derrière, sans même avoir commis des faits caractérisés, etc. Hein, c'est le simple fait d'avoir manifesté maintenant est criminalisé. Donc on a dû prendre énormément de précautions, beaucoup plus qu'à l'accoutumée. On a fait relire intégralement les chapitres hein, qu'on a écrits par nos enquêtés pour valider ou non la publication avec eux. Donc c'est vrai que, et pour les collègues qui sont les plus expérimentés, c'est une première. D'habitude, les enquêtés ne sont pas aussi précautionneux. Hein. Donc effectivement, il y a une conscience au sein des jeunes qui sont engagés de cet enjeu-là. Mais peut-être parce que, aussi, hein, c'est des jeunes, évidemment. Donc, ils ont toute leur vie devant eux, a priori, et on l'espère. Et donc, ils ne veulent pas, si vous voulez, insulter l'avenir. Et c'est normal aussi, hein, c'est très compréhensible. Et c'est lié, je pense, à cette question, finalement, du climat, de l'environnement. Hein. Ça fait partie de ces luttes-là, puisque, voilà, ils luttent pour leur avenir. Hein. Et donc, nous, on a particulièrement respecté ça. Donc ils sont bien conscients de la montée de la répression policière et ils en sont inquiets pour la plupart d'ailleurs. Hein. C'est ce qu'on a bien pu noter.
Oui, on se souvient notamment de S, dont nous tairons le nom, qui a été blessé, qui a failli mourir concrètement, dont le pronostic vital a été engagé très rapidement après avoir été mutilé par la police. Merci beaucoup Benoît Leroux et Mathias Lenzi d'être venus ce matin pour nous raconter cette histoire, nous raconter cet ouvrage. Je rappelle donc Avoir 20 ans à Sainte-Soline est sorti il n'y a pas très longtemps. Merci beaucoup à vous d'être venus.
Merci
à vous.
Et merci à l'équipe de Radio Campus Poitiers pour cette superbe interview. Et nous, chers auditeurs et auditrices, on va continuer en musique avec Sludge de Squid.
Yeah.
with celebrity chefs. Celebrity chefs!
Et c'était Sludge de Squid que vous venez d'entendre sur les ondes de Radio U. C'est vous qui le dites, La Quotidienne, c'est déjà terminé. Merci beaucoup à Mélissa de m'avoir répondu au téléphone pour cette interview, pour cette émission surtout. Et merci à l'équipe de Radio Campus Poitiers pour leur interview concernant avoir le livre Avoir 20 ans à Sainte-Soline. Merci beaucoup à Tintin pour la technique, et évidemment merci à vous chers auditeurs et auditrices de nous avoir écoutés jusqu'au bout de cette émission, et je vous donne rendez-vous demain, toujours à 18h, toujours sur le 101.1 pour une prochaine émission. Bonne soirée sur Radio U.